Alors, Claude m'avait dit de parler de la Renaissance à Venise, vaste sujet. Alors, j'ai pris un sujet qui n'avait peut-être pas encore été traité, pas de cette façon-là, je veux dire par rapport à Venise, parce que vous avez eu M. Philippe Colmeidache qui vous avait parlé de la naissance du livre. Et mon propos n'est pas le même, mon propos c'est la naissance du livre moderne à la Renaissance à Venise. C'est-à-dire ce que cette imprimerie dont on va parler a donné à Venise par rapport au livre moderne. Enfin, elle a créé pratiquement ce qu'on appelle aujourd'hui des livres modernes. Donc on va commencer, comme ça vous comprendrez mieux. Alors, vers 1455, a lieu un événement considérable. L'impression par Gutenberg d'environ 200 exemplaires de la Bible à 42 lignes, qui est celle-là, en mettant au point son invention révolutionnaire, la typographie, imprimée à Mayence dans un caractère gothique et sophistiqué. Alors pourquoi ça s'appelle Bible à 42 lignes? Parce que le texte est sur 42 lignes, comme ça, divisé en deux colonnes, un peu comme le missel. Vous savez, ça s'appelle à 42 lignes. Cette révolution va se répandre rapidement en devenant, en moins d'une génération, une aventure européenne. Le livre imprimé commencera à remplacer le manuscrit, facilitant la circulation des connaissances, transformant l'enseignement et la pédagogie. C'est un passage historique comparable à la révolution digitale d'aujourd'hui. Et Venise était un des centres importants de ce nouvel art que les humanistes mettront au service de leur projet intellectuel. Voilà, moi j'ai voulu parler donc des livres, mais j'ai voulu parler aussi comment ces livres, ces connaissances ont influé sur l'art à Venise. L'art, l'architecture, la peinture, etc. dont on va parler. Donc c'est pas vraiment du point de vue technique, et je vous parlerai de l'imprimerie, parce que ce n'est pas mon rôle, mais donc l'influence que cela a eue sur l'art à Venise et le reste de la ville. Alors, je vais vous montrer cette très belle image de Titien. C'est un portrait de Jacopo Sannazzaro, on va en parler tout à l'heure, hein, c'est un des grands intellectuels aussi de l'époque, qui a écrit aussi des livres. Voilà. Alors, dans cette ville encore gothique, de nouvelles formes artistiques vont alors éclore, de la peinture à l'architecture, comme je vous disais, donc les thèmes mythologiques sont inspirés par la redécouverte des œuvres classiques, en favorisant la création des grandes collections d'antiquités, comme celle par exemple de Pietro Bembo, du cardinal Grimani. Et alors là, la tentation était très forte pour vous montrer ce bréviaire Grimani. Ça ressemble un petit peu au livre d'heures du duc de Berry, qui a 100 ans, celui-ci 100 ans de plus, l'autre 100 ans de moins, parce que ça c'est 15e, l'autre c'est 14e siècle. Donc ce bréviaire Grimani est un manuscrit enluminé. Il a été réalisé en Flandre à partir de 1510-1520. Le commanditaire n'est pas connu. Il a été acquis à l'époque par l'ambassadeur du duc de Milan en Flandre à la cour de Marguerite d'Autriche à Malines à partir de 1514. Et après, il l'a vendu pour 500 ducats en 1520 au cardinal Domenico Grimani, qui était un grand collectionneur. Comme il était à Rome, souvent, il a raflé tout ce qu'il a pu d'antique, comme on dit, et il avait une collection incroyable, aussi bien de statues, aussi bien de camées, de tableaux, enfin tout ce qu'il a pu. Et donc, il a réussi à avoir aussi ce bréviaire. Après, il est passé en famille et c'est son descendant Giovanni Grimani qui va le donner à la République. Il sera mis dans les trésors de la basilique de Saint-Marc et après il est passé à la Bibliothèque nationale Marciana, c'est-à-dire la bibliothèque de Saint-Marc, voilà, où il est encore aujourd'hui. Donc c'était pour vous montrer cette très belle chose, voilà encore. Alors, on continue. On va parler d'Aldo Manunzio maintenant. Durant les années 1495-1515, Aldo Manunzio y imprimera une centaine de livres. C'est pour ça que je vous ai montré auparavant le tableau de Titien avec ce jeune homme qui, paraît-il, est Jacopo Sannazaro, avec le petit livre dans la main. Mais tout à l'heure, je vous en montrerai une autre. C'est ces petits livres qui sont nés avec un soin et mise en page très raffiné, étudié pour faciliter la lecture, les faisant ainsi sortir des cercles érudits pour atteindre un plus vaste public. Aldo Pio Manunzio est né à Bassiano, qui est un petit centre du Latium, c'est la région de Rome, entre 1449 et 1452, on n'a pas la date esatta. Vers 1467 jusqu'à 1475, il séjourna à Rome, où il étudia le latin avec Gasparino da Verona et Domizio Calderini, ensuite le grec à Ferrara avec Battista Guarino da Verona. En 1482, il sera l'hôte à Mirandola, chez son compagnon d'études, Giovanni Pico della Mirandola, et quand ce dernier partira pour Florence, il le fera comme tuteur de ses deux neveux, Alberto Pio III et Lionello Pio, qui étaient les princes de Carpi. Là, cette fresque montre justement le palais dei Carpi, dei Pio à Carpi. Alors, ça c'est Alberto Pio, ça c'est Aldo Manunzio, et ça c'est le philosophe Pomponazzi, qui était aussi un des maîtres des enfants de la famiglia. En 1505, Aldo est à Venise et il épousera Marie, fille d'Andrea Torresano, qui avait repris la typographie de Nicolas Janson, avec lequel il s'était associé depuis 1495, et Pier Francesco Barbarigo, fils du doge de l'époque, Agostino Barbarigo. Quand en 1489 Aldo arriva dans la Venise cosmopolite de l'époque, avec le profil typique de l'humaniste pédagogue, rien ne faisait encore prévoir son futur métier d'éditeur. D'ailleurs, la ville en était déjà fort pourvue. Dans sa première œuvre imprimée, le Musarum Panegyris, il expliquait sa doctrine pédagogique, très insolite pour l'époque, avec l'étude du grec mêlé au latin, approuvée par Angelo Poliziano. Il y trouvera aussi une aristocratie mercantile qui pratiquait un riche mécénat d'art et qui aimait profondément les lettres classiques, comme le patricien Ermolao Barbaro, auteur des Castigatione Pliniae, ce sont des épîtres philosophiques sur la Naturalis Historia de Pline, de 1492-13. C'est un des monuments de la philologie humaniste. Plusieurs célèbres érudits de l'époque feront les premiers pas vers Aldo, avec lequel naîtra une grande amitié et collaboration, comme, par exemple, Erasme, qui était arrivé avec ses traductions latines de l'Éphigénie au Nolide et de l'Hécuba d'Euripide. Il sera son hôte durant presque une année pour travailler à ses adagia, publiés en 1508. Vous savez ce que ce sont les adagia, c'est un recueil de proverbes grecs et latins dont il explique un peu les significations, quelquefois ils sont un peu ironiques ou satiriques, enfin il a publié plusieurs fois les adagia parce qu'à chaque fois il en remettait dedans et donc de quelques-uns au début c'était devenu vraiment des choses très importantes. Ça c'est la première publication qu'il fait à Venise en 1508, après il en fera à Paris aussi. Alors plus tard Erasme se souviendra du climat qui régnait dans la maison Manunzio, dominé par la forte personnalité du beau-père Andrea Torresano, personne avare, intéressée seulement au gain. D'ailleurs, il s'est plaint parce qu'il était mal couché, on lui avait donné une chambre froide, on mangeait mal, enfin bref, voilà, c'était un hôte qui n'était pas très content de la maison, quoi. L'activité de Aldo connaîtra une subite interruption en 1509. Pourquoi ? Parce qu'il y a la défaite de Venise contre la Ligue de Cambrai à la bataille d'Agnadello. Alors à ce moment-là, il s'abrita à Ferrara et dans d'autres villages de la région aussi, en attendant que la crise soit passée. Aldo décède à Venise le 6 février 1515 et ce seront le beau-père et les deux beaux-frères qui vont continuer son œuvre jusqu'à la majorité de ses enfants. Puis, l'activité arrêtera définitivement à la troisième génération avec Aldo Manunzio, le jeune, en 1590. Alors, quand Aldo arriva à Venise en 1489, la très riche bibliothèque des livres manuscrits grecs, le voilà Bessarion, qui avait été légué à la ville en 1468 par le cardinal Bessarion. Vous savez, il avait fui Constantinople après la chute de la ville en 1453, donc il s'est réfugié à Venise avec toute sa bibliothèque, puisque c'était un grand humaniste. Donc cette bibliothèque était en réalité inaccessible. Et près de l'université de Padoue, on n'enseignait pas encore le grec, car la chaire de Niccolò Leonico Tomeo sera créée seulement en 1497. Le centre des études grecques à cette époque était encore la Florence de Poliziano e Ficino. Et je le prononce en italien, excusez-moi. Et la production de livres en grec, en Italie, était limitée à quelques douzaines, tous publiés entre Florence et Milan. Aldo, à l'aide financière de son ancien élève, le prince Alberto Pio de Carpi, qu'on a vu tout à l'heure, réussit à publier entre novembre 1495 et juin 1498 l'œuvre complète d'Aristote. Composée d'environ 1792 grandes pages in folio, un travail jamais entrepris jusqu'alors en Italie. Grâce au rapport d'amitié et de collaboration avec les humanistes, les artistes et intellectuels grecs qui s'étaient réfugiés à Venise après la chute de Constantinople en 1453, Aldo créa l'Académie Aldine, qui était une institution dédiée aux études helléniques où les membres devaient parler entre eux seulement en grec, peine d'une petite amende qui allait enrichir un fonds commun utilisé pour organiser des joyeux banquets après. On a profité quand même. Alors, parmi ces membres illustres, on peut citer encore Erasme, Bembo, le voilà, jeune, il n'est pas encore cardinal, mais il est jeune là, et c'est une peinture de Giovanni Bellini, Tomalia Linacra aussi. À la fin de sa carriera, il aura publié beaucoup d'éditions originales, princeps, comme on dit, de classiques grecs, de Théocrite à Aristote, Aristophane, Sophocle, Euripide, Lysia, Pindaro, Platon, mais aussi les grands classiques latins, de Homère à Virgile, les auteurs contemporains pour l'époque, Erasme, Poliziano, Bembo. En 1501, apparaît pour la première fois dans une de ses publications la célèbre marque éditoriale du dauphin enroulé à une ancre, symbole de dynamisme associé à une prudente solidité. Festina lente ou hâte-toi lentement. Cette devise est apparue la première fois dans la dédicace des œuvres de Angelo Poliziano. Erasme dit dans ses adagia que cet emblème, excusez-moi parce que de temps en temps j'ai dit que au lieu de que, cet emblème était sur une pièce de monnaie de l'empereur Titus offerte à Aldo par le grand humaniste collectionneur Pietro Bembo. D'ailleurs, là, on la voit. Hein, ils ont mis là, la tête, là, la représentation de la monnaie. Et ça, c'est donc le symbole de Aldo. En 1501, Aldo publia une édition des œuvres de Virgile dans une forme nouvelle pour l'époque, un ottavo piccolo. Allora, on va voir le cardinal, maintenant Bembo è il cardinal. E l'ottavo piccolo, regardez ce tableau de Giorgione, avec ce portrait, avec ce jeune homme, avec un livre. Voyez, ce petit livre, c'est ça l'ottavo piccolo. C'est des livres de poche de l'époque. Et nous, on les appelle aussi i cinquecentini, parce que le 16e siècle, on dit il cinquecento en italien. Et donc, ces petits livres sont i cinquecentini. En 1501, donc Aldo publia une édition des œuvres de Virgile, dans cette nouvelle formule, comme je disais, un ottavo piccolo, habituellement employé pour les livres de dévotion. Des livres de petite dimension, transportables et disponibles pour un plus vaste public, afin que les classiques soient utilisés désormais de nuit comme de jour, parce que ce n'est plus les gros livres qu'il faut déplacer, qu'on ne peut même pas mettre sur les genoux quand on est couché au lit pour lire. Là, c'est plus facile. C'est-à-dire les ancêtres de nos livres de poche. Suivront les terzes rimes de Dante, les rimes de Pétrarque. Alors, Francesco Pétrarque, le voilà. Ensuite, à côté, mais ça, je vous le remets après encore. Les rimes de Pétrarque, assistées par un des plus grands lettrés de l'époque, Pietro Bembo, hein, qui l'aidait quand il fallait les mettre en page et puis corriger éventuellement. Et désormais, la notion de classique s'étendait à la modernité, pour l'époque. Hein. Elle sera fondamentale pour la diffusion de la poésie pétrarchesque dans l'Europe du Cinquecento, mais aussi comme modèle exemplaire de langue littéraire. L'édition de Pétrarque ouvrira la voie à d'autres chefs-d'œuvre de la nouvelle littérature. Gli Asolani, de Pietro Bembo, qui l'avait dédié à Lucrezia Borgia. L'Arcadia, di Jacopo Sannazzaro, qu'on a vu tout à l'heure dans le portrait de Titien. E il libro del Cortigiano, de Baldassare Castiglione. Le voilà, par Raffaella, le conte de Baldassare. Alors, maintenant, on a quelque chose que peut-être est moins connu de son art, mais qui a eu un écho jusqu'à nos jours encore. La renommée de Aldo, donc, est liée en grande partie à l'Hypnerotomachia Polyphili, publiée en 1499, célébrée par beaucoup comme le plus beau livre de la Renaissance, sorte de roman archéologique, dans une langue vernaculaire très compliquée, truffée de latinisme, d'hellénisme et d'érudition classique. Le titre, formé de trois mots grecs, signifie « bataille d'amour en songe » et raconte une histoire d'amour. Polyphile s'endort et en rêve essaye de retrouver sa bien-aimée Polia. Il s'agit évidemment d'une métaphore, car polia, du grec, plusieurs choses, peut-être l'antiquité classique, l'art ou la connaissance. Le parcours de Polyphile est un voyage initiatique, une conquête du savoir. Les 170 xylographies, de très haute qualité, parfaitement intégrées avec le texte, jouent un rôle essentiel dans le déroulement de l'histoire. L'Hypnerotomachia Polyphili fera l'objet d'une traduction en français, revue et corrigée par Jean Martin, puis publiée par Jacques Hervère à Paris en 1546. Sensiblement plus courte que l'édition italienne, elle constitue tout à la fois une traduction, une contraction et une adaptation. À propos de Jean Martin, Jean Martin était un huguenot. Et il était aussi secrétaire du cardinal de Lenoncourt. Or, François Ier, quand il est rentré d'Italie, il avait emporté un livre de l'Hypnerotomachia, l'original en italien, qui avait été frappé par les chiffres du roi en or, hein, on lui a fait cadeau, et donc après il l'a fait traduire en français. Mais donc la traduction française viendra qu'en 1546, là, quand chez Kerver à Paris on va la publier, un peu plus raccourci. Je dois vous dire que moi je l'ai. En italien, c'est très difficile de la lire. Parce que c'est un mélange, comme je vous disais tout à l'heure, de langue vernaculaire, latinisme, hellénisme et autre chose. Tandis que l'édition française est plus abordable. C'est quand même un bouquin qui est comme ça. Hein. Bon, je l'ai lu. Alors ça va mieux, ça passe mieux. C'est un peu plus rétréci. C'est-à-dire, c'est une traduction, une contraction, une adaptation. Donc, c'est plus facile à suivre. Mais c'est quelque chose qui est très, très beau. Et donc, je continue, cette œuvre sera le modèle d'une esthétique qui s'exprime dans les années 1560, aussi bien dans l'art des jardins, par exemple la Villa d'Este, la Villa Bomarzo, les villas médicéennes, ou françaises, la grotte de la Bastille d'Urfé, qui est dans le genre littéraire de la pastorale, naturalisée par Rémi Bellot, avec la bergerie, et Belleforêt. Cette relation se maintiendra tant que l'esthétique du polyphile trouvera des correspondances dans les réalisations architecturales, soit au siècle suivant, dans l'évocation des jardins classiques par Madeleine de Scudéry et La Fontaine, Le Songe de Vaux, alors qu'à Versailles, Mansart va lui emprunter le projet de la colonnade et le nôtre, les conceptions de ces jardins. J'ajoute qu'à Venise, l'église de la Salute, par le grand architecte du baroque vénitien Baldassare Longhena, a été construite en s'inspirant des gravures du Songe de Polyphile. Donc, je vous l'ai mise quand même. Hein? Vendredi, on aura la fête de la Madonna de la Salute à Venise, où on fera le pont de barque, de bateau, qui enjambe le canal Grande pour aller d'une rive à l'autre. Et c'est une fête qui dure 3 jours pour rappeler que la Vierge avait libéré Venise de la peste en 1632. La grande peste, la deuxième grande pandémie de peste, la troisième grande pandémie de peste après celle du Moyen-Âge et après celle de 1576 où on avait construit l'église de la Redentore, parce que là on s'était adressé au Rédempteur pour arrêter le désastre. Donc ça, je ferme la parenthèse sur la Salute. Alors, le Songe de Polyphile en français, réimprimé en 1554, puis en 1561, fut incontestablement un best-seller de son temps, abondamment discuté et commenté à la cour érudite et humaniste constituée autour du roi François Ier et de ses successeurs, fourni en référence au texte antique, raffiné dans sa conception des rites de l'amour, il devient rapidement une source d'inspiration pour les courtisans qui polyphilisent à tout va, selon le mot d'un critique de son temps, et inspire également les organisateurs des cérémonies d'entrée royale et tous ceux qui relèvent des rituels de la cour. Donc, c'est un livre que tous les architectes connaissent encore aujourd'hui. D'ailleurs, donc, le jardin de Versailles, Louis XIV, s'en est inspiré. Et donc, comme je vous disais, d'autres aussi, jardins et monuments. Parce que non seulement il a influencé les jardins, parce qu'il y a une description très vaste dans ses gravures, mais aussi il y a beaucoup de gravures qui représentent des temples antiques, des ruines, par exemple le temple de la Fortuna Primigenia à Palestrina. Donc, tous ces ruines, disons, ont inspiré aussi la construction d'autres sites, voire la Salute, par exemple, ou d'autres jardins. Donc, c'est un livre qui a été vraiment très, et qui est toujours très important. Si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, voilà. Alors, on revient donc à notre Venise. C'est l'époque aussi à Venise où, dans les palais privés, arrivent les premières peintures de stanza, qui veut dire de chambre, d'intérieur, dans lesquelles on voit souvent des thèmes allégoriques ou mythologiques d'inspiration classique. Ça, c'est Lorenzo Lotto qui fait cette très belle peinture. Elle décore les meubles ou les instruments musicaux, avec des scènes d'après les Métamorphoses d'Ovide ou des célèbres œuvres d'art de l'Antiquité, par exemple d'après les descriptions de Lucien de Samosate. Le voilà, ce monsieur, avec aussi un passage de son livre sur la calomnie d'appel, mais aussi des sculptures, des monnaies, des bijoux et œuvres imitées de l'Antiquité par des artistes contemporains, voire Bellini et Tullio Lombardo, surtout Tullio Lombardo, qui fera dans la chapelle du cardinal Zena ou Zeno, à la basilique de Saint-Marc, dans la gothique basilique de Saint-Marc, une élégante architecture à l'antique. Aldo avait publié avec passion ses chefs-d'œuvre de la poésie idyllique grecque et latine, de Théocrite à Virgile jusqu'à l'Arcadia de Saint-Nazaro. Cette politique éditoriale captait une sensibilité vers la nature, typique dans l'art vénitien, beaucoup plus que dans l'art florentin à Florence. Pourquoi ? Parce qu'à Venise, on était influencé par les contacts avec le monde nordique. Cette vision de la nature apparaît d'abord timidement en arrière-plan des retables d'église, par exemple chez Bellini, les triptyques, encore celui qui a i frari, celui de San Giobbe, pour s'imposer ensuite comme sujet autonome, devenant parfois le véritable protagoniste du tableau, voire Giorgione, la Tempesta, ou du jeune Titien. Ça, c'est un tableau qui est le concert champêtre, qui a été commencé par Giorgione, fini par Titien. Donc, on dit Giorgione Titien. Voilà. Dans cette période de forte tension politique, où les campagnes vénètes sont dévastées par le passage des troupes impériales, on assiste en même temps à un incroyable succès des thèmes pastoraux, des mythes du monde sylvain et orphique, peuplés de nymphes et de satyres. Venise, ville d'eau et de pierre, a toujours eu un regard vers la terre ferme, avec la volonté d'intervenir sur des territoires, parfois marécageux, pour les transformer en terrain fertile et productif. La villa Giustiniana, comme disent les Vénitiens, à Roncade, est le premier exemple de résidence où les parties rurales cohabitent avec un rêve antique, créé par Giovanni Giocondo, ami intime et collaborateur d'Aldo, qui imprimera pour lui son Scriptores de Re Rustica. Les livres d'Aldo sont encore aujourd'hui considérés parmi les plus beaux, à cause de la rigueur du texte, de l'invention de la conception et d'un grand impact esthétique. Son écriture italique di Corsivo Italico Aldino, exécuté par son graveur Francesco Griffo pour imiter l'écriture manuelle, lui venait de la profonde connaissance des styles calligraphiques du Quattrocento, ainsi que l'invention de son livre de poche, copié des manuscrits de petit format qu'il avait vus dans la bibliothèque de Bernardo Bembo, comme celui-là, qui était le père du cardinal Pietro Bembo. Bernardo Bembo était aussi un grand collectionneur humaniste et le fils a suivi les traces, puis le fils fera encore autre chose de plus haut. Mais il y avait aussi un élément nouveau, c'était la mise en page, où la partie imprimée et les marges blanches s'harmonisaient avec des proportions qui renvoyaient au rapport du célèbre nombre d'or. Nombre, mesure, proportion. Le 11 août 1508, un millier de personnes étaient présentes dans l'église de San Bartolomeo de Rialto pour écouter le mathématicien Luca Pacioli qui commentait le cinquième livre des Elementi d'Euclide dédié à la proportion, célébrant son importance pour la théologie, la médecine, l'astronomie et l'architecture, les arts libéraux et les arts mécaniques. Parmi le public, il y avait Aldo et ses amis politiques, il y avait Bernardo Bembo, les érudits comme Battista Ignazio e Gianno Lascaris, des artistes comme Pietro Lombardo ou Giovanni Giocondo. Dans le tableau là, qui a été probablement fait par Jacopo De Barbari. Alors Jacopo De Barbari, c'est lui qui a fait la fameuse carta a volo d'uccello qui rappresente Venise en 1500, c'est-à-dire il a photographié, on dira, à l'époque, toute la Venise. en hauteur. Alors, comment il a fait, puisqu'il n'y avait pas l'hélicoptère ni les drones pour photographier tout ça? Eh bien, il a été sur tous les tours et les campaniles de la ville. Donc, il a fait tous les petits morceaux qu'il voyait, de celui-ci, de celui-là, de celui-là. Et donc, il a fait toute cette veduta. Et donc, il aurait fait aussi le portrait de Luca Pacioli, qui est avec un de ses élèves, qui est ce monsieur-là, Guidobaldo da Montefeltro. Vous savez qui Montefeltro était? Des gens, des humanistes aussi, des cours humanistes, hein, comme on avait à Urbino, on avait à Ferrara, on avait à Mantova, etc. Alors, pourquoi dans une église? Cette histoire nous rappelle la naissance de la première école publique à Venise, en 1408, près de l'église de San Giovanni e l'Emosinario. C'est une autre église qui est à Rialto. Alors ça, c'est San Bartolomeo. Les vedutes ne sont pas terribles parce que ce sont des églises qui sont insérées tellement dans les maisons qu'il n'y a pas de façade. Donc, par exemple, celle-ci, où Luca Pacioli avait parlé. Donc, il faut se rappeler que San Bartolomeo était l'église de la communauté allemande qui avait juste de ce côté-ci, là, il Fontego dei Tedeschi, qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Donc, c'était leur église. Ça, c'est l'entrée. Au bout, là-bas, vous avez le Campo San Bartolomeo. Vous continuez ici, vous avez la montée du pont de Rialto, qui est là. Voilà, donc il se trouve là. Ici, il y a une calette très étroite où il y a une autre porte d'entrée à l'église. Et ça, c'est le clocher qui est vraiment serré entre les maisons. Même chose pour San Giovanni e l'Emosinario, toujours à Rialto. Alors là, vous descendez le pont de Rialto de l'autre côté. Ici, il y a toute cette rue où il y a tous ces boutiques, banquets, vous savez, qui se mettent pour vendre tous les souvenirs. Et là, il y a l'entrée de l'église, vous voyez, insérée dans des maisons. Donc là, il y a San Giovanni e l'Emosinario qui est représenté. Et le mot vient de Elemosina, qui veut dire aumône. Donc là, il y a la grille qui fait rentrer dans l'église parce que la porte est au fond. Et ça, c'est encore le clocher qui est vraiment serré entre les maisons. Vous voyez, c'est Rialto et densement peuplé. Et donc, la structure urbanistique est très dense. Alors, je reviens donc dans cette... toujours à Rialto. Alors, la naissance de cette église est née grâce au legs testamentaire d'un riche commerçant florentin qui s'appelait Thomas Talenti, qui l'a appelé, donc il a appelé cette école Gymnasium Rivoaltinum. Dans cette école humaniste qui privilégiait la dottrina aristotélicienne et grâce à l'enseignement du philosophe Paolo della Pergola, qui était en plus le curé de l'église, devint une véritable faculté. Faculté des arts, avec des leçons de théologie, astronomie et mathématiques. Une sorte d'école préparatoire pour les doctorats en médecine et en théologie. Paolo della Pergola avait souhaité la transformer, enfin cette école donc, en une véritable faculté universitaire. Mais son projet fut arrêté par le Conseil des Dix de la République qui ne voulait pas l'opposer au Studio Patavino de Padoue. Alors qu'est-ce que c'est le Studio Patavino? C'est l'université, c'est à l'époque l'université de Padoue s'appelait le Studio Patavinus, parce que le mot Padova en latin c'est Patavino. Donc Venise n'a pas voulu, puisque c'est elle qui avait beaucoup protégé cette université, qui l'a subventionnée et qui était un peu son, comment, il fiore all'occhiello. Alors, malgré tout, elle resta sous la juridiction d'Ogal comme école préparatoire pour la future classe dirigeante issue de la riche société mercantile de l'époque. Après l'incendie du 10 janvier 1514 qui ravagea le quartier de Rialto, l'église fut reconstruite sous le dogat d'Andrea Gritti 1523-38. Le Grand Doge, à l'origine de la Renovatio Urbis, ça veut dire que c'est lui qui a modernisé la place Saint-Marc, qui a fait construire la bibliothèque, on verra, protecteur des artistes comme de Titien, mais aussi de Jaco Sansovino, qui était arrivé à Venise depuis Rome, surtout après tous les problèmes du sac de 1527, et donc qui s'est établi à Venise. Ce dernier, à partir de 1537, commencera les travaux, c'est-à-dire Sansovino, les travaux pour édifier la bibliothèque marciana. Alors, à propos de ça, il a commencé à la construire en faisant comme il faisait à Rome, c'est-à-dire il fait la belle la voûte hein, en pierre et tout s'écroule. Parce que Sansovino ne connaissait pas les pratiques dont il faut user à Venise, c'est-à-dire que tout doit être léger. Toute Venise est en briques et en bois. Les marbres, c'est que des plaques, sont des revêtements extérieurs de façade ou d'habillage intérieur, mais pas épais. Donc lui, il a construit et tout s'écroule. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On le met en prison. Parce qu'à Venise, le Sénat, dès que vous faites une faute grave, que vous soyez un grand architecte ou même un membre de la noblesse importante, puisqu'on a mis aussi des doges avant qu'ils soient doges en prison, hein. Là, on ne pardonnait pas, Conseil des Dix. Donc Sansovino est fini en prison quelques jours. Mais grâce à l'amitié qu'il avait avec Titien, Titien a fait pression sur le Conseil des Dix et on l'a libéré. Mais après, il a compris qu'à Venise, il fallait construire autrement. Donc il nous fera la bibliothèque Marciana, la voilà, à partir de 1537, il commencera les travaux pour l'édifier, après donc ses aventures, qui abritera les textes de Pétrarque et la riche collection platonicienne du cardinal Bessarion. Enfin, situé en face du palais ducal, où pour la première fois, une bibliothèque d'État entrer à l'intérieur de l'espace du pouvoir politique de la ville. Voilà, donc ça c'est mon dernier mot, mais avant de terminer complètement, je voulais vous dire un mot aussi sur le fait que la célébrité des livres de Aldo Manunzio, évidemment, avait provoqué des ennemis hein, qui ont copié, et alors c'est surtout avec la famille Giunti de Florence, qui au XVIe siècle, avait commencé à copier les petits livres que Aldo sortait, le même format et surtout la même composition. Et il les vendait moins cher. Alors, Aldo s'était adressé d'abord au pape Alexandre VI, dont il a obtenu le privilège. Ensuite, au pape Jules II de la Rovere. Et pour finir, à Léon X, pape Médicien. Donc il a eu son privilège, mais bien évidemment, les Florentins ne sont pas restés là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Par leur ambassadeur, le gouvernement de Florence, via l'ambassadeur, a été supplié le pape Léon X Médicis à Rome, lequel finalement a donné aussi le privilège à la famille Giunti pour qu'ils puissent exercer librement leur commerce. Donc il y avait des batailles aussi entre eux qui étaient incroyables. Ça, il faut pas croire que c'était tout rose. Voilà. Donc, c'était à propos du cardinal Bembo, la photo qu'on avait vue, qui était tout beau, là. Je sais pas si je la retrouve. Pietro Bembo est devenu cardinal vers la fin de sa vie, simplement. C'est le pape Farnese qui l'a fait. Titien a fait ce tableau en 1540. Et son accès à la pourpre cardinalis date de l'année d'avant, en 39. Donc le pape Farnese Paul III finalement lui donnera le titre, enfin cappello. Donc là c'est Titien qui le fait presque à la fin de sa vie en fait. Tandis que là c'est Giovanni Bellini qui nous l'avait fait quand il était jeune. Alors jeune il a suivi souvent son père qui était ambassadeur de la Sérénissime. Bernardo Bembo, grand lettré aussi. Et donc il a suivi souvent, et surtout à Florence. Je parle de Florence parce que je sais que vous aimez beaucoup. Donc il a suivi à Florence. Il s'est fait beaucoup d'amis à Florence, notamment à la cour de Laurent. je parle du père, Bernardo. Il a réussi des manœuvres pas très catholiques, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire il s'est fait prêter de l'argent pour ses petits commerces personnels. Enfin bref, de toute façon, ils ont été très liés avec la cour médicéenne, avant qu'ils aussi eux aient leurs problèmes. Et donc après, il continuera à suivre son père à Venise. Ensuite, il passera à Padoue, puis ensuite il ira à Rome. Enfin bref, vers la fin de sa vie, il sera enfin créé cardinal par le pape suivant, c'est-à-dire le pape Farnèse Paul III. Voilà, ça c'est le mot que je voulais vous dire sur Pietro Bembo. Je termine, si vous avez des questions, voilà, je suis là.
Bien, si vous avez des questions, je voudrais d'abord remercier Graziella qui nous a fait un bon voyage au cœur de la Vénétie, de Venise même, et j'ai vraiment trouvé que c'était fort intéressant ces relations techniques, disons, et art qui étaient étroitement mêlés. C'était vraiment tout à fait passionnant de voir ces bouquins composés en grec, d'ailleurs. Je me demande un peu comment ils arrivaient à faire des caractères grecs. Enfin, il n'y a aucun doute qu'ils savaient fondre tout ça, mais il fallait avoir des sacrés spécialistes derrière pour vérifier le travail des typographes, etc. Et puis la beauté d'un livre où on voyait l'impression en V, un peu comme du Apollinaire, quoi, qui était assez surprenant. Donc il y a énormément de créativité en très peu de temps.
Bon, combien reste-t-il de livres de cette époque? Où est-ce qu'on peut les voir?
Alors, à la bibliothèque de Saint-Marc, il y a plus de 10 000 volumes. Il y a beaucoup de livres anciens, évidemment. Il y a Pétrarque, il y a toute la, c'est le legs qu'il a laissé. Il y a celui du cardinal Bessarion, donc. Il y a les legs Grimani. Et puis d'autres livres. Par exemple, moi, j'ai fait des recherches une fois sur un médecin qui s'appelait Niccolò Leonicenico, qui est né à côté de Padoue, mais qui a été médecin à la cour de Lucrèce Borgia, à Ferrara. Donc, comme je devais remonter la généalogie de ce personnage, parce qu'à l'époque, être médecin voulait dire aussi être philosophe, mathématicien, enfin, c'était des sciences qui englobaient beaucoup de connaissances. Donc j'avais fait des recherches, je suis allée jusqu'à l'Aristothéa de Ferrara, il y a la bibliothèque aussi avec des livres de l'époque de Ludovico Ariosto, hein, le nom vient de là, mais j'ai plus trouvé à la Marciana à Venise. Puis après à Venise on a les archives de l'État, de la Sérénissime, qui sont à Ifrari, et là il y a toute la mémoire politique de la ville, de la vie des magistratures, etc. À propos de magistrature, j'ajoute une chose. Il magistrato alle acque, qui était la magistrature que la Sérénissime a fondée au XVIe siècle pour défendre Venise des eaux, c'est-à-dire c'est une magistrature qui était préposée à surveiller toutes les eaux, que ce soit de la lagune ou des fleuves qui venaient aux lagunes. Bien, cette magistrature excellentissime, qui aurait eu 500 ans, vous savez qui l'a fait supprimer? Matteo Renzi, dit le duc de Florence, quand il était président du conseil. Donc lui, il a trouvé de mieux que supprimer le magistrato le acque. Voilà, bon, pour dire. Oui, donc l'archive de l'État de Venise, là, il a subi pas mal de dégâts aussi, parce que déjà, il les avait eus en 66. Là-dedans, vous trouvez toutes les archives de la Sérénissime, de toutes les magistratures, jusqu'aux archives napoléoniennes, jusqu'à l'époque de la domination, même s'ils ne sont pas restés beaucoup. Les Autrichiens, après, sont arrivés, ils ont fait encore plus de dégâts que les Français, d'ailleurs, parce qu'ils sont restés beaucoup plus longtemps. Les Français, ils s'en vont après 1812, et avec le congrès de Vienne en 15, arrive l'Autriche à nouveau et s'installe jusqu'en 1866, quand par plébiscite et grâce à l'aide de Napoléon III, Venise rejoindra l'unité italienne qui était de 5 ans auparavant, de 61. Mais avec une coupure, parce qu'en 1848, Venise s'est soulevée contre l'Autriche et elle a réussi à rétablir à nouveau une république, mais qui ne durera qu'une petite année. Parce qu'au bout de l'année, l'Autriche arrive, bombarde, etc. Et puis hop, hop, elle s'installe à nouveau. Et voilà. Donc, il y a les archives de l'État, puis on a la Querini Stampaglia, aussi des archives importantes. On a la Fondation Cini à l'île de San Giorgio Maggiore, où il y a toute une archive, surtout qui regarde la musique, mais aussi la littérature, etc., de l'ancien couvent bénédictin. Enfin, on a plusieurs archives à Venise, il y a plusieurs très très riches. Eh bien, là, tout ça a été compromis, parce que forcément, ça prend l'eau. Même si les étudiants qui ont été aidés l'autre jour à la Querini avec le séchoir à main, ils essayaient de sécher les feuilles des livres, mettant du papier boulevard après pour éponger le maximum, quoi, parce que, bon, puis il y a des autres choses qu'il faudra jeter.
Personne qui demande, on n'envisage pas de les mettre ailleurs, ces livres.
Et ailleurs où il y a des endroits dans ces bibliothèques où il y a des plans hauts. Mais il y a tellement de choses qu'il y a aussi les plans en dessous. Tout à l'heure, j'ai eu un ami qui m'a appelé, qui est consul d'Espagne à Venise. Lui, il habite dans un palais au troisième étage. Donc l'eau n'arrivait pas au troisième. Mais au deuxième en dessous, où il avait le stock de tous ses papiers administratifs pour le consulat, les livres, une bibliothèque, etc., tout ça est passé sous l'eau, au deuxième étage, ai Frari. Donc, vous dire que même si on les met au-dessus et pas au rez-de-chaussée, évidemment, on ne les laisse pas au rez-de-chaussée. Hein. Mais comme l'eau est montée trop haut, même l'étage au-dessus en a pris, c'est sûr. Et puis, si vous êtes dans les parties basses, comme la place ou comme les cessiers de Canareggio, qui est un des plus bas, là, ça rentre allègrement hein. Et ça monte. Allègrement, façon de dire.
Oui, hein.
Voilà, on s'en passerait.
Bonsoir. Est-ce que ces bibliothèques sont numérisées maintenant ?
Elles sont. Beaucoup de choses anciennes sont sur des.
Comme nous, on a Gallica ou autre.
Non, elles sont sur des microfilms, voilà. Beaucoup de choses anciennes sont sur microfilms. D'ailleurs, quand on les consulte, on demande ça. Quelquefois, on peut obtenir le livre vraiment ancien, mais ça dépend de l'importance du livre et de la fragilité. Et il faut le consulter avec des gants, pour tourner les feuilles, etc.
Ça n'est pas numérisé du tout.
Oui, ils sont sur Internet, certains. Ils sont numérotés, ils sont... Oui, oui, si. Parce que quand vous allez à la Marciana et vous demandez livre tel, ils vont regarder sur leur liste et puis vous allez consulter hein, et on vous le descend, vous l'amène s'il est ancien.
La question était de savoir si tous ces documents ont été pris avec des photographies numériques de telle sorte qu'on puisse le stocker et le diffuser comme on veut. Voyez-le.
Oui, beaucoup sont pris.
Ils n'ont pas des microfilms physiques.
Oui, beaucoup, mais par exemple, tout ce qui concerne l'archive d'État, il n'est pas sur microfilm. Là, ce sont des, comme on dit, des faldoni, ce sont des livres qui sont grands comme ça, hein, avec des pages et tout. Bon, là, enfin, ils sont à l'étage. J'espère qu'ils se sont sauvés, parce que moi, j'avais été visiter il n'y a pas longtemps là. C'est dans l'ancien couvent dei Frari, des frères franciscains à Venise. Comme le couvent a été supprimé par les suppressions napoléoniennes, il était énorme, il y a trois cloîtres à l'intérieur. Donc c'est devenu les archives de l'État. Parce que jusqu'à avant la chute de la Sérénissime, les archives étaient dans le palais ducal. Après, ils ont augmenté parce qu'il y a eu les archives napoléoniennes, les archives de l'époque autrichienne, enfin ça. Donc, comme on avait supprimé le couvent, on avait beaucoup de place là-dedans et on a créé les archives d'État de la République, là, à Frari, dans le couvent franciscain.
Les musées n'ont pas été touchés ?
Oui, le rez-de-chaussée a pris parce qu'il faut, se rappeler aussi que l'Académie est entourée de Riterra. Il Rio Terra à Venise, c'est une calle, une rue, qui a été comblée. Enfin, il y a un canal en dessous qui a été comblé. Alors, les canaux internes s'appellent Rii à Venise. Un Rio, c'est un canal interne. Et comme vous voyez, Rio Terra, ça veut dire que cette rue-là, c'est un canal enterré. Or, l'Accademia, tout autour, ce sont des Rii Terra. Donc, l'eau est en dessous, là, hein. Alors, quand on a bouché tout ça, et ça va jusqu'au canal de la Giudecca, tout au fond là. Là aussi, c'est surélevé, mais il y a un rez-de-chaussée où on a fait des salles. Je pense que l'eau est rentrée de toute façon. Hein. Je n'ai pas encore été la voir depuis. Là, en rentrant, j'irai faire quelques visites. Je vais faire le palais ducal tout de suite lundi, après-midi. Ben, là aussi, l'eau rentre, mais enfin, c'est à l'étage, les salles, donc là, elles sont un peu plus abritées. Non, le désastre, c'est la basilique. Normalement, jusqu'ici, jusqu'à l'Aqua Grande de 66, elle n'était pas rentrée dans l'église, vraiment, hein, parce qu'il y a des marches pour remonter. Elle rentre tout le temps dans le narthex. Ça, le narthex est toujours inondé. D'ailleurs, l'année dernière, on a fait des travaux de 2 millions d'euros pour que le narthex prenne un peu moins l'eau, jusqu'à 80 cm du coefficient de marée, c'est-à-dire les petites marées de l'été. Parce que même l'été, le narthex, dès qu'il y a une petite marée de 70, comme il est à 63 cm au-dessus du niveau de la mer, il prend l'eau, un petit peu. Alors, à force de rentrer, petite marée, moyenne marée, grande marée, qui fait que toute cette eau salée se fixe dans les murs. Il ne faut pas oublier que la basilique est un gros pâté de briques, hein, dite vulgairement, qui est habillé de mosaïques et de marbre, de plaques de marbre et de colonnes. Mais toute cette eau s'infiltre dans les murs, elle monte jusqu'à 4-6 mètres parfois, et le sel reste. Et c'est celui-là qui ronge les muratures, comme on dit, le problème. C'est le sel. L'eau et le sel.
Il y a un personnage que vous n'avez pas mentionné, qui pourtant a profité beaucoup de la révolution de l'imprimerie, et qui était ami de Titien, je crois que Titien l'a peint deux fois, il était ami de Jacopo Sansovino. C'est Pietro Laretino.
Alors, Laretino, je l'avais nommé, si vous aviez écouté ma conférence sur Titien. Je l'ai même montré dans le très beau tableau de Titien. Il était ami de Titien, il était ami de Sansovino. Alors, Laretino, c'était un homme de lettres aussi, qui a écrit des choses plus ou moins belles, plus ou moins importantes. On le surnommait la langue de prince, de vipère des princes, parce que dès qu'il avait quelqu'un dans l'œil, hein, il disait le plus de mal possible. C'est quelqu'un qui a favorisé, par exemple, le jeune Tintoret, qui était très ami avec Titien, et surtout ami de joyeux repas le soir à Canareggio, dans le palais du cardinal Gasparo Contarini. Il y a ce qu'on appelle il Casino degli Spiriti. C'est une sorte de construction, petit villino qui donne sur la laguna. Et là, le soir, dans ce Casino degli Spiriti, c'est pas qu'il y avait des fantômes, hein, mais c'était les beaux esprits de la Renaissance qui se réunissaient. Donc, Aretino, Sansovino, Titien, Tintoret, pas trop, pas souvent, mais lui, il avait du travail à faire. Hein. Et donc voilà. Mais Aretino a été un personnage très contrasté, très aimé et haï, voilà. Parce que c'était quelqu'un qui était vraiment une langue de vipère, voilà, comme on dit aujourd'hui. Hein. Malgré qu'il a fait des écrits importants, des écrits, mais aussi des écrits très luxurieux et contre la religion par moment. Donc, bon, il faut le prendre comme il est, comme on dit. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je n'ai pas voulu le mettre là-dedans parce que, bon, on n'en finit plus. Hein, la conférence va durer des heures. Hein, si j'ai essayé de alléger le plus possible.
Je voulais vous demander quel a été le rôle de l'imprimerie dans la diffusion des partitions musicales.
Très important. Là, je n'ai pas voulu trop encore en ajouter, mais vous avez fait une très bonne question, parce que Venise a été aussi au cœur de l'imprimerie pour les partitions. Il faut se rappeler aussi que la Cappella Marciana, c'est-à-dire à San Marco, on a eu des maîtres de chapelle très tôt. Par exemple, le premier très connu, célèbre, c'est un flamand, un franco-flamand qui s'appelle Adrien de Villert. D'ailleurs, il est en exposition là, sur la mostra que nous avons au Palazzo Ducale en ce moment sur les flamands, Là, il y a une salle dédiée à Adrien de Villers. Donc lui, il a été maître de chapelle à Samar en 1526. À partir de là, la musique est devenue très importante. Et puis on aura des maîtres de chapelle très importants, jusqu'à arriver à Monteverdi, par exemple. Comme ils étaient employés d'État, de la République, parce qu'il ne faut pas oublier que San Marco était la chapelle d'État et pas la cathédrale, donc la République leur donnait une grande liberté à ses employés. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de composer de la musique sacrée pour la chapelle, évidemment, pour les offices. Mais après, ils étaient libres de composer de la musique profane en ville pour les théâtres, c'est-à-dire opéra et autres concerts. Ce qui fait qu'il y a une production musicale importante. Et n'oublions pas que le fait de l'architecture de la basilique, hein, on a eu à partir surtout de Monteverdi, disons qui est le plus connu, ce qu'on appelle la création de ce qu'on appelle i cori spezzati. Parce qu'on mettait les chœurs un peu, pas tous ensemble, mais un peu éparpillés comme ça. Et c'est l'architecture de la basilique qui a inspiré cette chose. I cori spezzati, qui veut dire brisés, pas tous ensemble, hein, ont donné lieu à cette polyphonie, qu'aujourd'hui on appellerait la stéréo, hein, puisque ça répondait comme ça à différents endroits de la basilique. Alors, production en basilique, production en ville dans les théâtres. Et n'oublions pas non plus, et ça je l'ai dit dans ma conférence sur les théâtres vénitiens, n'oublions pas non plus qu'en 1637, à Venise, naissent les premiers théâtres publics, c'est-à-dire ouverts à tout public, et l'invention de l'opéra baroque. Et là, il y aura une production énorme de compositions, et donc une production énorme de partitions, qu'il faudra imprimer aussi. Bon, il y en a que, il les copiait à la main, mais vous voyez le boulot que c'est. Donc ceux qui avaient les moyens, ils les faisaient imprimer. Et donc là aussi, de ce côté-là, l'imprimerie à Venise a été très importante pour les partitions musicales, hein, c'est sûr. Bon, je n'ai pas ajouté parce que sinon j'aurais dû raconter des tas de petites histoires encore qui vont avec. On n'en finissait plus, mais bon, je suis contente que la question ait été posée.
Voilà. Bien, merci Graziella. Bien, encore merci.